Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous. Il est 18h30 en temps universel, 14h30 ici à Washington. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui du vendredi 16 août 2019. À la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, deux personnes testées positives au virus Ebola dans la province du Sud Kivu. Au Nigeria, retour surprise du chef du groupe chiite Cheikh Ibrahim Zakzaki qui devait subir des soins médicaux. Au Cameroun, une bonne partie de la capitale Yaoundé est privée de courant électrique depuis plusieurs jours. Israël autorise l'entrée à l'élu démocrate Rachida Tlaib pour motif humanitaire. Cette dernière renonce au voyage à cause de conditions dites oppressives. Dans 10 minutes, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. En République démocratique du Congo, deux personnes testées positives au virus Ebola dans la province du Sud Kivu. Une jeune mère est décédée et a laissé son enfant malade. À Bukavu, notre correspondant Ernesto Mouero a recueilli la réaction du gouverneur qui est donc au Sud Kivu.
Des cas d'importation positifs d'Ebola viennent d'être confirmés dans la nuit du 15 août au Sud Kivu. Dans les territoires de Mwenga, collectivité de Lwindi, dans l'aire de santé de Tchowe. Nous disons aujourd'hui, avec les cas qui est positif aujourd'hui, nous déclarons effectivement l'épidémie maladie à virus Ebola au Sud Kivu. Mais nous disons et nous répétons, il n'y a pas de panique. La situation est sous contrôle. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de contrôler cette épidémie. Que la population reste calme, les autorités politico-administratives prennent les responsabilités avec nos partenaires, les autorités sanitaire, nous nous y mettons.
C'était donc Théo Gwabidje-Kazi, gouverneur du Sud Kivu. En République centrafricaine, une deuxième cargaison d'armes légères et de munitions russes destinées aux forces armées centrafricaines est arrivée mercredi à Bangui après une première livraison en janvier. Après de longues négociations, la Russie a obtenu mi-décembre dernier un moratoire pour livrer des armes au FACA malgré un embargo imposé par l'ONU depuis 2013. Au Nigeria, retour surprise du chef du groupe des chiites Cheikh Ibrahim El-Zakzaki. Il avait été évacué lundi en Inde pour recevoir des soins médicaux, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu selon les autorités d'Abuja qui ont exigé qu'il soit ramené à la maison. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
Le séjour médical du chef du mouvement islamique au Nigeria n'a finalement duré que 3 jours. Il a regagné Abuja cet après-midi comme il était parti, c'est-à-dire sous une forte surveillance sécuritaire. À son atterrissage à l'aéroport d'Abuja, El-Zakzaki a été rapidement conduit dans un endroit inconnu par les services de sécurité qui ont empêché la presse et le public de le voir. Le gouvernement a déclaré que le prédicateur controversé avait refusé de se conformer aux conditions de sa libération provisoire par une haute cour de Kaduna qui lui avait permis de voyager en Inde pour se faire soigner. Zakzaki n'était pas d'accord, entre autres, du déploiement massif du personnel de sécurité dans l'enceinte de son hôpital de New Delhi. En plus, il aurait insisté sur le fait que seul son médecin personnel avait le droit de l'examiner, ce que les autorités d'Abuja ont rejeté. Le porte-parole du mouvement islamique au Nigeria s'est dit déçu de l'attitude des autorités fédérales et condamne l'arrangement pour le retour du fondateur du mouvement islamique au Nigeria. La haute cour de Kaduna avait donné une suite favorable à sa requête à condition qu'il revienne au pays pour poursuivre son procès après sa sortie de l'hôpital.
Par ailleurs, un Nigérian de 15 ans a été arrêté pour avoir mis en scène son enlèvement avec des amis, réclamé une rançon à son père. L'adolescent et ses complices âgés de 15 à 22 ans ont été interpellés la semaine dernière alors qu'ils exigeaient une rançon de 500 000 naira, soit environ 1250 euros. Au Cameroun, 9 marins chinois et 8 ukrainiens ont été kidnappés jeudi dans l'attaque de 2 navires par des pirates au large de Douala. C'est ce qu'a affirmé un membre des services de sécurité. Ces attaques ont probablement été perpétrées par des pirates nigérians, avait assuré la veille une source anonyme. Toujours au Cameroun, une bonne partie de la capitale Yaoundé est privée de courant électrique depuis plusieurs jours. Un incendie a endommagé l'un des principaux postes du réseau électrique de la ville. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre tranche magazine. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a assisté ce vendredi à une cérémonie à Libreville sans faire de discours, mais où il a été filmé par des médias internationaux, une première depuis son AVC il y a 10 mois. En Ouganda, la police a investi 126 millions de dollars dans des vidéos de surveillance du géant chinois, alors que le Wall Street Journal a affirmé cette semaine que le groupe chinois avait aidé les services de renseignement ougandais à espionner l'opposant Bobi Wine. Jacques Aristide.
D'après le Wall Street Journal, qui a mené un long travail d'investigation, des techniciens de Huawei ont facilité l'utilisation des logiciels espions pour permettre d'intercepter les communications de Bobi Wine sur des applications comme Skype ou WhatsApp. Popstar et député d'opposition, Bobi Wine veut défier le président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021. Le gouvernement ougandais a démenti l'information, tout comme Huawei, accusé d'avoir vendu du matériel de surveillance à plus de 24 pays africains. Pour Kampala, l'article du journal américain n'est qu'une continuation de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. À propos des caméras de surveillance, le gouvernement ougandais indique qu'elles permettront de réduire considérablement les crimes violents, ce que rejettent les dirigeants de l'opposition qui craignent que la police les utilise pour cibler les manifestants à l'approche de 2021.
Au Zimbabwe, la police anti-émeute a violemment dispersé à coups de gaz lacrymogène des sympathisants de l'opposition descendus ce vendredi dans les rues d'Harare contre la dégradation de la situation économique malgré une interdiction de manifester. Les Algériens, eux, manifestent à nouveau massivement dans les rues du centre de la capitale, quadrillés par la police pour un 26e vendredi consécutif d'un nouveau mouvement de protestation qui s'apprête à clore son 6e mois sans avancer vers une solution à la crise. En Libye, 3 personnes ont été blessées dans des raids menés vendredi par les forces du maréchal Khalifa Haftar contre 2 aéroports sous contrôle du gouvernement d'Union nationale dans le nord du pays. Par ailleurs, l'ONG Amnesty International a exprimé ses craintes quant à la sécurité d'une députée du Parlement libyen enlevée il y a près d'un mois à Benghazi après avoir appelé à arrêter l'effusion de sang dans ce pays plongé dans le chaos. Le 18 juillet dernier, la mission de l'ONU en Libye avait appelé à une enquête sur la disparition et à la libération de Siam Sergewa.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'élue américaine d'origine palestinienne Rachida Tlaib a renoncé à rendre visite à sa grand-mère en Cisjordanie occupée à cause, selon elle, de conditions oppressives imposées par Israël. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Israël a annoncé hier avoir interdit la visite de Rachida Tlaib et d'une autre élue démocrate, Ilhan Omar, à cause de leur soutien au mouvement de boycott. Madame Tlaib, d'origine palestinienne, a écrit aux autorités israéliennes pour leur demander de l'autoriser à visiter sa grand-mère, Mouftia, qui vit près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Elle s'était engagée à respecter toutes les restrictions durant sa visite. Le ministre israélien de l'Intérieur, Aryeh Deri, a alors autorisé cette visite qu'il a qualifiée d'humanitaire. Finalement, Rachida Tlaib a renoncé à rendre visite à sa grand-mère en citant des conditions oppressives. Hier, le président Donald Trump a affirmé qu'Israël ferait preuve de faiblesse en permettant à ses élus de fouler le sol israélien. Rachida Tlaib et Ilhan Omar sont considérés comme des ennemis de l'État hébreu car elles militent pour son boycott. Depuis 2017, une loi israélienne permet aux autorités d'interdire l'entrée aux partisans de ce mouvement qui appelle au boycott économique, culturel ou scientifique d'Israël pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens.
Par ailleurs, l'armée israélienne a indiqué que 2 Israéliens ont été blessés dans une attaque à la voiture Bélier à l'entrée d'une colonie au sud de Bethléem en Cisjordanie occupée. Le mouvement pro-démocratie hongkongais aborde un week-end crucial pour sa crédibilité au cours duquel il va à nouveau tenter de rassembler les foules après avoir été critiqué pour les violences survenues mardi à l'aéroport sur fond de menaces d'intervention chinoise. Vendredi soir, des milliers de manifestants manifestants se sont rassemblés dans un parc de la ville pour une veillée destinée à appeler les pays étrangers à adopter des sanctions contre les responsables du gouvernement. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan s'est entretenu ce vendredi avec le président américain Donald Trump au sujet du Cachemire, quelques heures avant une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet, annoncé le ministre des Affaires étrangères pakistanais. À New York, le quartier Manhattan a été en état d'alerte pendant plus de deux heures ce matin, quand ont été découverts dans le métro trois objets suspects abandonnés dans la grande station de métro de Fulton Street près du World Trade Center. Très vite, la station a été évacuée et deux grandes lignes de métro arrêtées. Une nouvelle plainte au civil a été déposée contre les héritiers de Jeffrey Epstein et ses complices présumés, deux femmes dont une aurait été abusée il y a 15 ans et qui réclament dorénavant 100 millions de dollars de dommages et intérêts. La plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan n'identifie pas les deux victimes supposées, ni les quelques 10 femmes également assignées pour avoir possiblement aidé le financier, mort, je vous le rappelle, samedi dernier en prison. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
En République démocratique du Congo, l'Église catholique propose la création d'un fonds de développement communautaire pour gérer les revenus issus de l'exploitation des minerais. Ce mode de gestion devrait permettre aux populations riveraines de profiter des revenus miniers. Cette expérience a déjà permis de construire des infrastructures dans le Kivu, mais elle a été malheureusement suspendue. La SENCO veut qu'elle soit réhabilitée et étendue à plusieurs régions. Le financement du fonds proviendra des redevances minières évaluées à 3,5% du chiffre d'affaires et de 10% des minerais classés stratégiques comme le cobalt. La société sucrière camerounaise Sosucam a enregistré une production record de 124 000 tonnes de sucre durant la campagne 2018-2019. Cette performance brise son précédent record vieux de 15 ans. Leader du marché camerounais du sucre avec 70% de couverture, la Sosucam a une capacité de production de 130 000 tonnes par an grâce à une superficie agricole actuelle de 25 000 hectares. Terminons cette Minute Éco avec le groupe sud-africain de téléphonie mobile Vodacom qui investira plus de 589 millions de dollars cette année pour améliorer son réseau en Afrique du Sud. L'investissement sera consacré au programme d'accélération de la couverture rurale et à moderniser les stations de base et les services numériques.
C'est le moment de votre page sportive qui vous est présentée par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
Le championnat congolais reprend ses droits.
Oui, Ekia, la succession au tout-puissant Mazembe est donc lancée. Pour le compte de cette première journée, le DC Motoma Pembe débute les hostilités face à Lubumbashi Sports. Demain, l'AS Vita Club entame sa saison face à Simba. Maniema Union défiera le groupe Bazano et Lupopo jouera contre Rangers. À suivre dimanche, FC Renaissance du Congo, RD Kinshasa, Sanga Balende CS Don Bosco, Dauphin Noir Nyuki et tout-puissant Mazembe Bukavu Dawa.
Le Maroc a clairement défini les missions de son nouvel entraîneur.
Nommé hier en remplacement d'Hervé Renard, Vahid Halilhodžić doit qualifier les Lions de l'Atlas pour la CAN Cameroun 2021 et y atteindre au moins les demi-finales. Coach Vahid devra ensuite remporter l'édition 2023 en Côte d'Ivoire et comme il avait fait en 2014 avec l'Algérie ou en 2018 avec le Japon, le franco-bosniaque doit qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Écoutons Vahid Halilhodžić.
Participation Coupe du Monde, pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la quatrième fois que je tente d'amener une équipe aux Coupes du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité.
Le technicien franco-bosniaque percevra un salaire de 80 000 euros par mois durant les 4 ans de son contrat et doit résider au Maroc.
Deux internationaux kényans de rugby condamnés pour viol collectif.
Frank Wanyama et Alex Olaba ont été condamnés à 15 ans de prison pour le viol collectif d'une chanteuse en février 2018. Les deux sportifs ont été reconnus coupables par un tribunal kényan au cours d'un procès où des témoins ont évoqué une culture du viol dans l'univers du rugby local. La juge Martha Mutuku a annoncé la condamnation en soulignant qu'il est nécessaire de prononcer une peine dissuasive. Frank Wanyama, 24 ans, et Alex Olaba, 23 ans, tous deux étudiants, qui ont été condamnés à la peine maximale prévue pour un viol collectif, ont participé à plusieurs tournois de rugby à 7 au sein de l'équipe nationale.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie. Vous écoutez LMS sur VOA et voafrique.com. Place à présent à notre tranche magazine. En République démocratique du Congo, deux cas d'Ebola ont été enregistrés dans la province du Sud Kivu. Il s'agit d'une jeune mère de 26 ans décédée jeudi à Mwanga, 140 km au sud de Bukavu. Son bébé de 7 mois a été diagnostiqué positif. Eddy Isengo a interrogé le coordonnateur de la cellule nationale de lutte contre Ebola. Il s'agit du docteur Jean-Jacques Mouyembe.
Ce n'est pas grave hein, pour moi, parce que c'est un cas, un contact connu. Ce qui est mauvais, si le contact n'est pas connu, ça c'est trop compliqué. Maintenant, ça c'est un contact connu, mais qui a quitté Beni et qui s'est rendu donc là où il habitait, donc au sud Kivu. Elle est tombée malade, puis elle est décédée, elle a contaminé son fils. Et les mesures sont prises maintenant pour d'abord recenser tous les contacts, le contact de cette dame-là. Et depuis hier, on a fait donc ce comptage de contacts. Et aujourd'hui, on a commencé donc déjà à vacciner tout le monde. Et l'enfant sera ou est déjà mis sous traitement avec le Regeneron. Bon, pour nous, il y a peu de risques que l'infection arrive à Bukavu. C'est parce que Mwanga, je crois, c'est à quelques 140 km et la route est très mauvaise.
Justement, la route est très mauvaise, mais comment a-t-elle pu quitter Beni jusque-là?
Beni, oui, oui.
Mais est-ce qu'elle n'avait pas présenté des signes de maladie avant?
Oui, oui. Il semble donc qu'à chaque point de contrôle, elle changeait d'identité, quoi. C'est comme ça qu'il s'est échappé jusqu'à arriver à du côté du sud qui vaut.
Mais comment se fait-il que les gens changent? C'est pas les premiers cas que les gens changent d'identité. Est-ce qu'elle se suspecte et se soupçonne d'avoir le virus en elle ou comment?
Ben oui, c'est-à-dire parce que c'est un contact connu. Donc, certainement, elle sentait qu'elle avait donc contacté la maladie et puis elle essaye donc d'éviter et de changer. Mais certainement, on va trouver une solution. On va voir comment on peut suivre tous ces contacts par des méthodes de GPS ou quelque chose comme ça pour diminuer tous les risques d'exportation de la maladie.
C'est à Beni et à Goma qui se concentre tous les moyens pour combattre cette maladie, mais y avait-il une raison pour un contact de quitter cet endroit où il y a tout pour aller à Mwanga? On parle de la recherche des féticheurs ou quelque chose comme ça.
Oui, mais vous comprenez qu'elle était partie à Beni pour des raisons donc, de famille. Donc, si ces raisons ne sont plus là pour qu'elle reste, donc, elle préfère venir chez elle. Et puis, au début, donc, cette maladie, elle pouvait penser que c'est le palu ou des choses comme ça. Donc, elle va prendre quelques médicaments. Les paracétamol, etc. Bon, mais c'est un problème de conscience individuelle aussi, hein. Mais malheureusement, donc, c'est ce que nous voyons. Les gens se déplacent malgré les symptômes qui peuvent apparaître, donc, chez eux.
Elle a fait quand même un long chemin. Elle a dû emprunter des véhicules, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui étaient dans le véhicule ou dans tous les moyens de transport qu'elle a pris?
Le plus important, c'est de connaître, donc, tous ces gens-là. On les vaccine et puis on les surveille, hein.
Docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la cellule nationale de lutte contre Ebola en RD Congo.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Au Cameroun, une bonne partie de la capitale Yaoundé est privée de courant électrique depuis plusieurs jours. Un incendie survenu le 7 août dernier a endommagé l'un des principaux postes du réseau électrique de la ville. Emmanuel Ntap, notre correspondant, nous en dit plus.
Plusieurs quartiers de la capitale Yaoundé sont dans le noir, comme les quartiers Mini-Ferme, Mélène, Carrefour des Carreaux, Biémassi ou encore Siméon. Les populations de ces endroits sont aux abois.
Ce que nous avions dans comme prévision dans nos congélateurs, tout ça s'est gâté. Ça fait exactement une semaine, deux jours, nous n'avons pas d'électricité.
Pas d'électricité pour charger.
J'ai mes téléphones en main. On ne peut plus rien faire. Pour que je puisse même donner à manger à la maison, il n'y a plus rien.
À Tchinga, un quartier populaire et florissant pour les affaires, les perturbations de courant électrique vont de 9h du matin jusqu'à tard dans la nuit. Ici, pour la survie des affaires, les moteurs de groupe électrogène ronfle à longueur de journée dans les structures bancaires, de microfinance, de transfert électronique d'argent, les stations-service et chez quelques rares particuliers. Mais il y a déjà des désagréments témoignent sous anonymat un habitant du quartier.
L'insécurité s'est aggravée. Quand tu dors chez toi, tu dois être tout éveillé. Quelqu'un peut débarquer. Nous sommes démoralisés même.
Les responsables de sécurité du quartier Tinga et ses environs n'ont pas souhaité faire de commentaires sur ces allégations. Les perturbations actuelles dans la fourniture de courant électrique à Yaoundé sont sans précédent.
Il y a eu un départ de feu dans la salle des commandes du poste source de Mélène.
Gaston Elundu Esomba, ministre de l'eau et de l'énergie, au cours d'un point de presse.
Ce départ de feu a engendré un incendie qui a consumé 19 cellules de la salle des contrôles. Cette salle constitue 28% des charges d'énergie de la ville de Yaoundé.
Seuls les hôpitaux, les stations de pompage et de traitement d'eau sont alimentés 24 heures sur 24. Ailleurs,
nous avons donc décidé de procéder et de manière rotative au retrait des lignes, c'est ce qu'on appelle le délestage.
Le ministre de l'eau et de l'énergie.
Pour qu'il y ait plus d'équité, on est obligé de couper certains ménages. Si vous avez été coupé aujourd'hui, certainement c'est votre voisin qui sera coupé demain.
Les travaux de réhabilitation de la salle de commande endommagée ont débuté et un délai a été fixé pour un retour à la distribution normale du courant électrique à Yaoundé. Joël Nana Kontchou, directeur général de Eneo Cameroun.
Nous espérons que nous allons reconnecter tout le monde dans deux semaines. Le gouvernement nous pousse à le faire en 7 jours. C'est un challenge. Nous allons faire tout ce qui est possible pour ramener la situation à la normale.
Pour faire face au déficit d'énergie électrique, le Cameroun construit à 65 km au nord de Yaoundé, un barrage hydroélectrique qui va couvrir, dit-on, 30% de ses besoins énergétiques. Yaoundé, Emmanuel Jounouta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le ministère tchadien de la Justice et des Droits Humains et les Nations Unies ont tenu hier une rencontre avec la société civile. L'objectif est de trouver une solution à la question de l'apatride. Alors, terme employé pour parler de la situation d'une personne dont aucun État ne reconnaît comme son ressortissant. Plus de précisions avec André Komadjingar.
La notion d'apatridie renvoie à une personne sans nationalité, une source d'exclusion et de souffrance puisqu'elle constitue une violation de droit de la personne elle-même, de sa famille et même de sa descendance. Billy Michel Aoumba-Oumba est le représentant du SR au Tchad.
Les apatrides rencontrent généralement des difficultés pour jouir de leurs droits fondamentaux tels que l'éducation, les soins de santé, l'emploi, la liberté de mouvement et le droit de vote. Qui plus, l'apatridie peut être un fait générateur d'instabilité et d'insécurité dans un pays.
Il salue les efforts du gouvernement tchadien qui, face au défi que connaît le système national d'état civil, a décidé de rendre gratuite la délivrance des jugements supplétifs aux enfants réfugiés nés sur le territoire tchadien entre 2002 et 2015 à risque d'apatridie. Mais, sur le terrain, les agents chargés de délivrer ces documents administratifs exigent de l'argent. L'Arlom Marie, coordonnatrice de l'Association tchadienne pour la promotion de liberté et des droits de l'homme, interpelle les organisations de la société civile.
On dit que l'acte de naissance est gratuit, mais l'application, qu'est-ce que nous, en tant que population, nous faisons pour accompagner ces mesures gouvernementales? Aujourd'hui, la carte d'identité, officiellement, c'est 10 000. J'ai vu des gens qui ont pris les cartes d'identité à 30 000. Mais qu'est-ce que nous, en tant que société civile, nous faisons? Nous contribuons vraiment au renforcement de l'apatridie.
Pour le directeur adjoint de l'affaire politique et de l'état civil du ministère de l'administration du territoire, Bartholomew Bimia, le Tchad est sur la bonne voie pour que tous les enfants réfugiés et retournés centrafricains aient eux aussi leurs documents administratifs.
En mois de mai dernier, le ministre de la Justice et le représentant du ministre de l'Administration du Territoire se sont rendus à Amdjarans pour lancer l'audience foraine de délivrance des jugements supplétifs aux enfants réfugiés. Et ça concerne également les retournés de la Centrafrique pour permettre à ce qu'on leur délivre, n'est-ce pas, des actes de naissance. Effectivement, c'est pour lutter contre la patrie dans notre pays.
Des juridictions qui ont procédé à ces audiences foraines ont délivré des actes de naissance à plus de 120 000 enfants réfugiés nés sur le territoire tchadien. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Komi Yondouli Emmanuel, invite toutes les nations à éradiquer ce fléau d'ici à 2024.
Un enfant n'a commis aucun crime pour venir au monde avec un état juridique défavorable qui affecte et hypothèque son avenir. Le sortir de cet état est un impératif. Le risque de ce cycle infernal doit être arrêté en lui dotant d'actes de naissance et de nationalité.
André Kodumadjingar Ndiamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Greenland n'est pas à vendre, avait a aussi répondu Lars Løkke Rasmussen, premier ministre danois au président américain. Donald Trump, qui doit visiter le Danemark en septembre, a laissé entendre que Washington voudrait bien acheter le Greenland, la plus grande île du monde et province autonome du Danemark. Dans le passé, les États-Unis ont déjà acheté la Louisiane à la France, l'Alaska à la Russie et les îles Vierges, dernière acquisition en 1917. Et ce n'est pas la première fois que les États-Unis offrent d'acheter le Greenland. Pour une explication, Idriss Fall a joint Mohamed Mbodji, professeur d'histoire à Manhattan College à New York.
Donald Trump s'identifie à Andrew Jackson, le président américain qui a, disons, changé la manière dont la vie politique américaine se déroule et surtout est crédité d'avoir consolidé l'emprise des États-Unis à l'ouest de la rivière Ohio. C'est dans le contexte d'une géopolitique mondiale depuis centaines d'années à peu près, ou peut-être même moins, où les États-Unis ont cherché, en particulier après la Deuxième Guerre, Truman avait essayé d'acheter Groenland. Ça n'a pas marché pour diverses raisons. Pour les historiens, ce n'est pas quelque chose d'étrange.
Pourquoi le Groenland ne peut pas être vendu?
Parce que le Groenland est un pays souverain à l'intérieur du Danemark. Le Groenland ne fait pas partie de la communauté européenne. Elle a des accords associés, elle a son propre premier ministre. La seule chose dont le Danemark est en charge, c'est la politique étrangère, la défense et la monnaie.
Les États-Unis avaient déjà acheté en 1803 la Louisiane de la France.
À l'époque, avec les guerres napoléoniennes, Napoléon s'était trouvé en difficulté, en particulier ayant à défendre un territoire très vaste, y compris donc ces territoires d'Amérique, mais surtout ayant perdu Saint-Domingue, Haïti, se trouvait dans une position de reconquête et d'opposition systématique à la Grande-Bretagne. Mais surtout, les Espagnols avaient réoccupé la Louisiane. Souvent, les gens oublient ce détail, que lorsque Napoléon allait vendre la Louisiane, la France venait simplement de récupérer et n'avait pas encore eu le temps de réoccuper physiquement. La France est en situation de conflit systématique avec la Grande-Bretagne. Donc la France subit des revers, Trafalgar, Aboukir, etc. Napoléon, en stratège, s'est rendu compte que même si l'Espagne retournait à la France, à Louisiane, cette possession devenait indéfendable. La France n'avait pas la flotte, n'avait pas l'armée pour soutenir efficacement une défense de la Louisiane. Et surtout, une pression américaine très forte. On a retrouvé une lettre de Jefferson à son ambassadeur à Paris qui lui a dit franchement, si la France ne nous cède pas la Louisiane, nous allons nous allier à l'Angleterre et nous allons reprendre la Louisiane par la force.
Et c'est pareil aussi pour l'Alaska. En 1867, les États-Unis achètent à la Russie l'Alaska.
Oui, donc à la suite de la guerre de Crimée, là aussi, la Russie se retrouve endettée et appauvrie. Elle a toujours l'ambition de bouter la Turquie de la plupart de ses possessions contiguës, et donc avait des besoins de trésorerie énormes. Et d'autre part aussi, évidemment, l'Alaska pouvait très bien tomber dans l'escarcelle expansionniste des Américains. Mais là, surtout, on peut vraiment dire que c'est la politique russe elle-même qui a commandité la vente plutôt que le forcing des Américains.
Mohamed Boumji, professeur d'histoire à Manhattan College à New York.
«
Jacques Aristide avec vous dans l'Amérique et vous tout à l'heure à 19h TU. Gros plan sur la mesure visant à refuser la nationalité américaine aux immigrants qui bénéficient d'aides sociales. D'après l'administration Trump, la loi américaine sur l'immigration stipule que ceux qui viennent vivre aux États-Unis ne peuvent pas devenir une charge pour la société. Qu'en pensez-vous? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et en direct au 001-202-205-4393.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Justin Twait. C'était Ekia Badou. Merci pour votre écoute et excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique.